Le dossier. C'est la prostitution qui nous intéresse dans ce dossier cette semaine et pour en parler, j'accueille Luc Chemelin. Bonjour.
Bonjour.
Depuis mardi, le Conseil constitutionnel se penche sur la loi d'avril 2016 sur la prostitution, un texte qui continue de faire débat, Luc.
Pénaliser les clients des prostituées, c'était la principale mesure de cette loi votée sous François Hollande. Près de 3 ans après son adoption, elle pourrait aujourd'hui être censurée. Des associations comme Médecins du Monde et le STRAS, le syndicat du travail sexuel, réclament son abrogation. Elle lui reproche d'atteinte à la vie privée, d'être responsable de l'augmentation des violences contre les prostituées et une précarisation de leur situation. C'est le Conseil constitutionnel qui devra trancher. Une actualité qui nous donne l'occasion de s'intéresser à la réalité de la prostitution, à l'impact de cette fameuse loi et d'entendre ceux qui sont confrontés à Grenoble. Vous leur venez en aide 2 nuits par semaine grâce à des maraudes. Rodolphe Baron, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président de l'association Magdalena 38. En face de vous, maître Véronique Pigeon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avocate pénaliste au barreau de Grenoble. Vous avez d'ailleurs eu affaire à plusieurs dossiers contre le proxénétisme. La première question est pour vous d'ailleurs, maître Pigeon. Que dit exactement la loi française sur la prostitution ?
Alors, effectivement, vous l'avez rappelé, on a une loi d'avril 2016 qui visait à instaurer la responsabilisation des clients. C'est-à-dire que cette loi interdit l'achat d'actes sexuels et fait encourir aux clients une amende de 1 500 euros, pouvant aller même jusqu'à 3 750 euros en cas de récidive, et qui prévoit des stages de sensibilisation comme peine principale également.
D'accord. Alors, la loi de 2016 permet de condamner les clients à une amende allant de 1 500 à 3 750 euros. Rodolphe Baron, faut-il abroger cette loi comme le souhaitent certaines associations ?
Alors, cette loi, elle a également un autre volet, c'est la réinsertion des personnes victimes, enfin en tout cas en situation de prostitution, qu'elles soient victimes ou non de réseau. Donc c'est un volet qui est moins médiatique, mais qui est extrêmement important, parce que les personnes étaient considérées comme responsables, et parfois les prostituées étaient arrêtées pour plein de raisons. Et là, aujourd'hui, elles sont accompagnées plutôt dans une réinsertion. Donc ça, c'est un élément important. Et puis, sur l'abrogation, je pense que la loi, alors son application est très difficile à mettre en œuvre, il y a très peu de clients pénalisés dans les faits. Par contre, je trouve qu'elle donne un signal à la société et elle dit à tout à chacun et aux hommes en particulier qui sont les principaux consommateurs que acheter un acte sexuel n'est pas souhaitable et n'est pas bon pour la personne en face.
Donc selon vous, il faut la garder ?
Selon moi, il faut la garder, oui.
D'accord.
Et donc, maître Pigeon, dans les faits, est-ce qu'on peut dire que cette loi est vraiment respectée ?
Alors, une loi, je ne sais pas si elle est vraiment respectée, mais en tout cas, on a des chiffres. On a, depuis 2 ans, 2400 procès-verbaux qui ont été dressés dans toute la France. Et les amendes dépassent rarement 300 euros. Alors, je rebondis sur ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que avant la loi de 2016, on avait une loi de 2003, dite loi Sarkozy, qui pénalisait, qui incriminait le racolage. C'est-à-dire que c'était la prostituée, elle, qui risquait une amende. Maintenant, c'est le client qui risque une amende. Et donc, on a toujours quand même une pénalisation de ces rencontres tarifées.
Alors, maintenant, je vous propose d'écouter un son de quelqu'un qui est contre cette loi. Sarah-Marie Maffezoli est membre de l'association Médecins du Monde et coordinatrice du programme Jasmine qui lutte contre les violences faites aux travailleurs du sexe.
C'est une précarisation des travailleuses du sexe qui voient leurs revenus considérablement baisser, une exposition au risque sanitaire et une exposition à plus de violences. Les clients qui restent parce qu'ils prennent un risque pénal se sentent en situation de force pour négocier des rapports non protégés. Et les travailleuses du sexe, ayant beaucoup moins de revenus, sont dans une situation où elles ne peuvent plus se permettre de refuser. Les travailleuses du sexe, très clairement, nous le disent, la pénalisation des clients les met en danger.
Rodolphe Baron, vous êtes président de l'association Magdalena 38. Les prostituées, vous les côtoyez donc régulièrement grâce aux maraudes, sont-elles en danger à cause de cette loi ?
Alors elles sont en danger, c'est une certitude. La loi n'a rien changé sur le danger, elles ont toujours été en danger. La majorité des femmes se prostituent sous l'emprise de proxénètes. Donc la baisse de revenus n'impacte pas tellement la femme qui de toute façon est pauvre et est ponctionnée de ses revenus, mais à la rigueur elle baisse les revenus du proxénète. Donc il n'y a pas pour moi de difficulté à ce niveau-là. Par contre ce sont des femmes qui sont en grande fragilité, en grande précarité. Et on voit la nuit, effectivement elles sont victimes de tout un tas de violences, des clients bien sûr, mais même de gens qui passent, qui les insultent, etc. Et c'est vrai qu'elles sont réellement en danger, il faut leur venir en aide, oui.
Donc cette loi a eu un impact positif quand même, donc à vous écouter ?
Cette loi a un impact positif parce qu'elle montre, par exemple, j'avais reçu un client avant cette loi qui m'expliquait que son psychologue lui avait dit d'aller voir des prostituées pour se soulager de ces tensions sexuelles. Bon, maintenant, les clients se rendent compte, et par la loi, hein, ils apprennent qu'effectivement, acheter un acte tarifé, ça pose une question quand même sur le respect de la dignité de la femme pour qui qu'ils abordent.
Il est 16h46 sur Radio Campus. Avant de continuer ce débat, je vous propose d'écouter un reportage d'Alexandre Lepère. Il était voir la réalité du terrain et a suivi une maraude à Grenoble, vote de votre association, Rodolphe Baron.
22h à l'église Saint-Vincent-de-Paul à Grenoble, c'est parti pour l'une des deux maraudes de la semaine. Une soirée particulière, peu de filles dans les rues et pour cause, le thermomètre affiche 0 degré.
Oh là là, tu es glacé, c'est ça?
Ah oui, il est froid.
Une heure et demie plus tard, dans une rue sombre de Saint-Martin-d'Hères, une fille bulgare accepte enfin de monter dans le camping-car. Elle est frigorifiée. Alban, bénévole, lui prend la main et la réconforte.
On leur montre juste qu'on est là. On essaye de leur donner un petit peu d'affection, quoi, de les écouter, de les soutenir. En fait, elles ont besoin de vider leur sac, hein, on sent. Hein.
Il est minuit, direction désormais l'hôtel de ville de Grenoble. On y retrouve trois jeunes nigérianes. L'atmosphère est plus détendue. C'est une autre façon de cacher les problèmes.
En fait, quand tu sais ce qu'il y a derrière, t'hallucines du courage qu'elles ont. De toute façon, il y a toujours des personnes qui viennent les embêter. Il y a même des clients qui les volent. Leur argent, qu'ils ne leur donnent pas du coup au dernier moment qu'ils partent.
Autour d'un café et d'un pain au chocolat, elles se confient sur leur quotidien. Une fois la prière terminée, l'une d'entre elles répète qu'il faut partir. Après un dernier tour, la maraude est terminée. Il est déjà 1h du matin, la fatigue se fait sentir chez les bénévoles. La soirée a pourtant été plus calme. 5 prostituées seulement sont montées dans le camping-car contre 15 d'habitude.
Alors la question pour tous les deux, on va commencer avec Maître Pigeon. Comment a évolué la situation de la prostitution à Grenoble au fil des années?
Alors moi, je n'ai pas beaucoup de recul sur ces questions-là. Je sais qu'il y a toujours des dossiers avec du proxénétisme, qu'il y a une répression qui est quand même assez effective. Mais ça, je n'ai pas de chiffres sur l'agglomération de Grenoble. Je ne peux pas vous en donner.
Et vous, Rodolphe Baron, qui voyez quotidiennement, vous êtes sur le terrain, vous avez vu une évolution?
Alors sur la prostitution de rue, qui est que 15% de la prostitution, hein. Il y a une forte augmentation dans les 10 dernières années, et avec une prostitution qui est passée une prostitution française il y a une trentaine d'années, et une prostitution complètement étrangère, essentiellement d'Europe de l'Est et d'Afrique. Aujourd'hui, les deux tiers des femmes sont nigérianes, hein, celles qui sont sur le trottoir. Et puis après, on a une prostitution qui est également très forte, mais qui ne se voit pas, qui sont les bars américains, les salons de massage, et sur Internet, avec là beaucoup d'étudiantes, notamment. Mais cette partie-là est beaucoup plus difficile pour nous à appréhender, on n'a pas beaucoup de visibilité et de chiffres.
La moyenne d'âge des prostituées, à peu près?
Alors, les plus jeunes ont 14 ans, 14-15 ans. Et puis, la moyenne d'âge est autour de 18-20 ans.
Vous avez l'impression que ça s'est rajeuni? Ou ça a toujours été...
Je pense que la jeunesse a toujours attiré. Le prix d'une passe ne dépend pas de la beauté de la fille, mais de son âge. Plus elle est jeune, plus le client est prêt à payer cher. Et il y a une prime si la femme est enceinte. Le client paye encore plus cher si elle est enceinte. Donc, on se rend compte de la perversité dans l'acte de l'achat sexuel.
Maître Pigeon, l'association Médecins du Monde demande par exemple une dépénalisation totale du travail sexuel. C'est ça la solution pour protéger les prostituées ou améliorer leurs conditions?
Je crois que la solution, ce serait quand même une prise de conscience de la fragilité de ces femmes. J'ai le sentiment que dans ce débat-là, on mélange la morale, le droit pénal, les faits de société. Il faudrait qu'on clarifie un peu les choses. Il faudrait que les gens y prennent conscience de pourquoi ont-ils, enfin les hommes, parce que c'est les hommes qui ont recours à la prostitution le plus souvent, pourquoi a-t-on besoin d'avoir recours à une prostituée au mépris de sa dignité? On n'a pas un acte sexuel avec une personne, mais l'autre devient un objet qu'on paye. Donc c'est, je ne peux pas savoir si une loi peut faire changer les choses. Si l'absence de loi peut faire changer les choses, en tout cas, les pouvoirs publics font des textes et puis le problème reste entier. Et moi, je rejoins votre interlocuteur aussi, c'est que peut-être que le fait qu'on légifère là-dessus, ça peut faire prendre conscience qu'il y a un problème. Après, est-ce que ça fait évoluer le problème? Est-ce que ça solutionne le problème? Moi, je n'ai pas la réponse.
Et vous, Rodolphe Baron, la pénalisation totale, c'est ça la solution?
En fait, je crois que notre société confond la morale et le côté légal et la loi. Et pour beaucoup de personnes, ce qui est légal est moral. Et donc le fait de rendre la prostitution illégale indique qu'il y a un problème de moralité et de respect de la dignité. Si on rend l'acte légal, pour beaucoup de personnes, ça deviendra un acte moral sans trop de difficultés. Et du coup, on va accroître, on va dire, cette pratique.
Donc, aux Pays-Bas, la prostitution est légale depuis 19 ans. Les prostituées sont même enregistrées auprès de la chambre de commerce. Ça serait un modèle à copier, ça, en France, ou absolument pas ?
Par exemple, en Allemagne également, la prostitution est devenue légale, elle est très encadrée, etc. Et ce qui est très intéressant, c'est que la prostitution illégale clandestine a également augmenté au même moment. C'est-à-dire qu'en fait, on a donné à la population allemande le feu vert sur le fait qu'acheter un acte sexuel ne posait pas de difficultés. Il y a une confusion légale et morale, hein, je vous rejoins là-dessus. Et ce qui fait que derrière, tout le monde en profite, les réseaux officiels déclarés et puis les réseaux clandestins. Je rappelle qu'à Grenoble, on a des bars américains, des salons de massage qui sont déclarés à la chambre de commerce, qui payent des impôts et qui sont des véritables lieux de prostitution.
Et par rapport au réseau des MAC, donc qui contrôlent un peu tout ça, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la loi, Maître Pigeon ?
La loi réprime le proxénétisme. Alors, je n'ai pas mon code pénal là sous les yeux, mais les peines sont souvent lourdes. Mais on a l'impression que dès qu'il y a un réseau qui est éradiqué, il y en a un autre qui se monte. Ce sont des réseaux qui sont très, très diffus et qui sont très organisés. Il y a beaucoup d'argent en jeu, il y a beaucoup d'intérêts. Il y a aussi beaucoup de délinquance, parce qu'il y a de la drogue. Les filles, elles ont besoin de drogue. C'est toute une économie souterraine qui est de malsaine. Et effectivement, les pouvoirs publics essayent aussi de lutter contre ça, mais ça, c'est très, très dur.
Et la loi est-elle assez efficace actuellement ?
Est-ce qu'une loi est assez efficace ? Une loi, son premier rôle, c'est de ne pas être liberticide et c'est de pouvoir être appliquée. Voilà. Donc, une loi efficace, il y a une loi et il faut la respecter.
On dit que la prostitution, c'est le plus vieux métier du monde. Est-ce que selon vous, ce métier disparaîtra un jour ?
Moi, le fait de parler de métier me dérange. Je ne pense pas que ce soit un métier qui respecte la dignité de la personne. Je pense que les femmes subissent ça. J'ai rencontré une femme d'une cinquantaine d'années il y a quelques mois, et une Française, qui m'explique qu'elle se prostituait, elle me faisait un tableau rose, qu'elle avait des clients réguliers, qu'elle avait de bons revenus, qu'elle pouvait payer son appartement avec sa fille de 16 ans. Et donc elle m'explique que ça fait 38 ans qu'elle travaillait et qu'elle était fatiguée. Donc 38 ans, une femme de 51 ans, donc elle commençait à 13 ans. Je lui dis, mais comment on vient à la prostitution à 13 ans ? Et là, tout d'un coup, le tableau rose s'écroule et elle m'explique qu'elle a été violée pendant 5 ans par un homme et qu'elle s'est mise à se droguer. Pour payer sa drogue, elle a rencontré un dealer proxénète et qu'elle est rentrée dans la prostitution comme ça. Mais on voit bien que ce n'est pas un métier et que ça nous respecte. Et que la personne se détruit au fur et à mesure des actes. Et les femmes qui ont 40, 50 ans se disent épuisées et on voit leur corps qui est vraiment impacté et que ça laisse des traces vraiment très importantes. Et que la reconstruction est difficile derrière, mais on est plein d'espoir. On vit de très belles choses et des parcours de femmes qui s'en sortent vraiment de manière extraordinaire.
Non, Maître Pigeon, on parlait tout à l'heure, juste avant l'émission, on avait parlé de certains cas de femmes qui étaient physiquement et psychologiquement totalement détruites. Vous pouvez nous parler un peu de ça ?
C'est ce qui vient d'être dit. Si on demande à un conseiller d'orientation de rendre compte de ce que les élèves lui ont demandé en troisième, de leur vœu de métier, est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit « je vais être prostituée » ? Non, c'est pas un métier. Je crois qu'on ne choisit pas la prostitution. On la subit, on rentre dedans parce que effectivement il y a des traumatismes qui sont pas guéris. Et puis après, on est là-dedans.
Et les femmes qui parlent de liberté d'entreprendre, alors ?
Mais on peut parler de liberté d'entreprendre. On peut envisager le sexe de plein de manières différentes. Je veux dire, c'est leur liberté aussi. Nous, on n'est pas là pour porter justement un regard moralisateur et pour condamner. Il y a un fait de société qui est celui-là. Il y a des lois qui sont celles qui sont là. Il y a des gens qui réfléchissent. Il y a des gens qui travaillent autour de ces problématiques-là. Mais on n'a pas à donner comme ça un jugement. Oui, c'est bien, ou c'est la liberté. Non, chacun vit ça comme il l'entend.
Rodolphe Baron, vous voulez dire quelque chose ?
Oui, sur la dignité, justement, la liberté d'entreprendre. Une personne qui voudrait travailler pour un employeur et qui serait prête à travailler en dessous du SMIC, par exemple, la loi le refuse et s'y oppose parce que ça ne respecte pas sa dignité. Il ne pourrait pas vivre dignement avec le salaire fourni. Donc on voit bien qu'il y a une liberté d'entreprendre en France, mais dans un cadre qui permet de respecter la dignité de chacun.
Il est désormais temps, malheureusement, de clore ce débat. Merci à vous, Rodolphe Baron, président de l'association Magdalena 38, et maître Véronique Pigeon, avocat au barreau de Grenoble. Un dernier mot pour vous dire que la tant attendue décision du Conseil constitutionnel sera annoncée vendredi prochain.